9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Alain de Chalvron.
Bonjour Alain de Chalvron.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, grand reporter, avec une carrière grande comme le bras qui s'étend sur 4 décennies. Vous avez quitté France Télé en 2016 et vous racontez cette carrière hors norme dans ce livre, en direct avec notre envoyé spécial aux éditions de l'Archipel. Sur la couverture, on vous voit en costume cravate devant la Maison Blanche, mais vous avez également beaucoup été sur le terrain et La Nouvelle République résume ainsi votre livre. Ses mémoires sont comme un cours d'histoire. Alors je vais essayer de résumer avant qu'on entre dans le vif du sujet. Vous avez rencontré l'ayatollah Khomeini, Yasser Arafat, vous avez connu la guerre du Liban, vous étiez l'un des rares journalistes présents lors de l'attaque d'Israël au Liban, vous avez également connu les bombes américaines en Irak quand les États-Unis ont déboulonné Saddam Hussein, vous étiez correspondant à Washington des années, à Pékin, à Rome, vous avez fait 26 voyages avec le pape, vous êtes allé en Corée du Nord, vous étiez au Japon pendant l'accident nucléaire de Fukushima, vous avez rencontré tous les présidents français depuis Giscard, quasiment tous les présidents américains depuis Reagan et les trois derniers papes. Quand vous retournez sur cette carrière hors norme, vous retenez quoi ?
Cette vie, ouais. On n'aura pas assez de temps non. Avec votre vie. Non, mais vous mentionnez l'ayatollah Khomeini, par exemple. C'est un des premiers trucs que j'ai fait. Je me suis retrouvé à Nauf-le-Château, j'étais tout jeune journaliste.
En banlieue parisienne.
Oui, je devais avoir 25-26 ans. Et on me dit, va voir ce type-là, je ne sais pas trop qui c'est, un Iranien, bof, il vient d'arriver. Et j'arrive là-bas, à Nauf-le-Château, il y avait un autre journaliste, Éric Rouleau du Monde, et l'ayatollah qui parlait, il nous a dit de nous asseoir sur le tapis et on l'a écouté parler pendant 5 heures, on ne savait pas ce qu'il disait. Mais on a compris que c'était important parce que tout ça passait ensuite en Iran avec des cassettes, etc. Et ça a fait la révolution finalement.
Attendez, vous enregistrez quelqu'un sans comprendre ce qu'il dit ?
Oui. Enfin, quand même, il y a de temps en temps un type qui venait nous dire « Voilà, il est en train de dire ça, mais c'était très religieux. »
Non mais pardon
et tout
de
ça,
dire ça, mais c'est le contraire du journalisme, non ?
Ah ben non, mais on avait quand même... Il n'y a pas que ce que dit la personne, il y a la façon dont il le dit et il y avait son regard. Alors ouais. Là, je peux vous dire que le regard de Khomeini, c'est pas rien. Hein.
Alors, évidemment, il faut choisir, vous consacrez un chapitre au Liban, c'est le troisième, je vous lis. Il faut être fou pour s'installer à Beyrouth en 80 avec femme et enfant. Aurélie a 3 ans, Marc est devenu grand reporter 3 mois. La guerre civile a déjà commencé, vous avez failli y laisser votre vie, Alain de Chalvron. Vous étiez fou ou vous aviez trop besoin de travailler ?
Ah non, je voulais absolument aller là-bas. Non, j'étais fou, ouais. Autrement dit. Non, c'était pas du tout un besoin de travailler. J'étais à France Inter, j'aurais pu ne pas être candidat, tout simplement.
Et on apprend qu'il y avait un contrat sur votre tête, au bout d'un certain temps, de la part de qui et surtout, quelles conséquences pour vous ?
Alors, je ne sais pas exactement de qui. Il y avait 2 hypothèses. Alors, j'avais fait quelque temps auparavant une interview du chef de l'Assala. L'Assala, c'est l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie qui avait fait des attentats à Paris, etc. Et ça ne s'était pas très bien passé avec lui. Et donc ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'était l'époque où Carlos attaquait la France.
Ouais, le terroriste. Hein.
Voilà, le terroriste Carlos. Et il avait tué un couple de Français juste en face de chez moi. Et donc, c'était la deuxième hypothèse. Puis finalement, il y a eu l'invasion israélienne. Et tout ça.
Vous renvoyez femme et enfant à Paris, mais vous-même, vous restez à Beyrouth. Vous écrivez « Je vivais une vie clandestine, ne couchant jamais 2 soirs de suite au même endroit ». Vous aviez même un Colt. Vous saviez vous en servir ?
Non, mais on m'avait dit, c'est pas compliqué. Si quelqu'un rentre chez toi, tu tires à travers la porte. Voilà. Ouais.
Et pardon, c'était légal ? Est-ce que la rédac à Paris le savait, que vous étiez armé ?
Non,
voilà, maintenant ils le savent. Vous avez également échappé à la mort lors d'un raid israélien le 5 juin 82. Vous êtes passé à 2 doigts.
Oui, alors ça, c'est vraiment le destin, quoi. Effectivement, c'était le premier bombardement de la guerre de 82. Et j'arrive au bureau en voyant, en entendant et en voyant, parce que mon balcon, on voyait très bien les bombardements. Hein. Et j'arrive au bureau et je me dis, je vais partir là-bas. Et je rencontre le gars, le caméraman de TF1 qui me dit, viens avec nous. Et je dis, oui, bien sûr. Voilà. Et puis en chemin, je me dis, non, je vais quand même faire le prochain flash. Heureusement, parce que lui est mort. Il a été une des premières victimes de ces bombardements. Et probablement, je serais resté avec lui.
Comme si cela ne suffisait pas, vous étiez à Bagdad au moment de l'attaque américaine décidée par George Bush en mars 2003. Et là, on frémit. Vous avez vraiment pensé que Saddam Hussein allait vous utiliser, vous et d'autres journalistes, comme bouclier humain ?
Oui, parce que c'était ce qui se disait avant. Et il y avait beaucoup de rumeurs hein, dans les jours qui ont précédé. Et on se disait, oui, ils vont nous mettre dans des centrales thermiques ou ça, pour éviter d'être bombardés. Puis finalement, rien s'est passé.
Mais à ce moment-là, vous dites quoi ? Vous dites, qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi j'ai choisi ça ? Je vais mourir pour mon travail ? Ou vous dites, non, c'est ma mission de journaliste ?
Écoutez, moi, j'avais quand même quelque part confiance que ça ne se ferait pas comme ça. C'est-à-dire, on ne serait pas mis utilisés comme des otages. Nous tous, parce qu'ils avaient besoin de ça, et nous particulièrement Français, parce qu'on avait quand même une position à ce moment-là, vis-à-vis de l'Irak, qui était très positive vue par les Irakiens.
On ne peut évidemment pas tout raconter. J'aime beaucoup votre découverte. Je saute d'un continent à l'autre, de la Corée du Nord. Vous n'avez pas vu les camps de concentration, mais vous avez vu quelque chose dont vous dites que ce serait un rêve pour Anne Hidalgo, des rues sans voiture.
Oui, alors il y avait très très peu de circulation. Je crois qu'il y en a un petit peu plus maintenant, ouais. Mais je n'ai plus jamais eu de visa, pour vous dire la vérité. Et donc, on était effectivement dans cette grande ville de Pyongyang, sans voiture, mais il y avait quand même une policière au milieu du carrefour. Et moi, je devais traverser, je voulais aller de l'autre côté.
La policière, elle faisait la circulation ?
Ah oui, 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 elle faisait tous les gestes qu'il fallait, comme s'il y avait des voitures.
Mais il n'y avait pas de voiture.
Mais il n'y avait aucune voiture. Et moi, je traverse la rue, comme ça, il n'y avait aucune voiture, devant la policière, qui m'engueule en me disant « Mais non, monsieur, vous devez traverser par le passage souterrain. » Parce qu'il y avait des passages souterrains et il n'y avait pas de voiture. Je me suis dit ouais. « Pourquoi passer par le même ?» Je suis quand même passé par le passage souterrain. Et en face, il y avait des espèces de où on vendait des saucisses, vous voyez, des trucs ouais. comme ça. Mais c'était à un prix hallucinant, c'était un demi-mois de salaire. Et c'était ça qu'on ne voulait pas que je voie.
Ah oui, et les supermarchés aussi, ils ne voulaient pas que vous filmiez les supermarchés.
Non.
Et vous avez compris pourquoi ?
Oui, parce que le guide lui-même nous a dit, ben non, ça ne sert à rien, il n'y a rien dans ces supermarchés.
Vous restez avec nous, on va parler de Fukushima, on va parler de sport. Vous avez fait quelque chose qui fait plaisir à toutes les rédactions sportives en ce moment en France. Vous avez changé la loi, on va entendre ça, vous restez avec nous.
C'est le grand reporter Alain de Chalvron qui est notre invité. On continue à parler de son livre en direct avec notre envoyé spécial où il nous fait passer de l'autre côté de l'écran. Et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Notre invité est Alain de Chalvron, grand reporter sur France 2. Il a couvert l'actualité internationale de ces trois dernières décennies et a décidé de nous raconter l'envers du décor dans ce livre en direct avec notre envoyé spécial sorti aux éditions de l'Archipel.
Parfois, malheureusement, l'envers du décor, c'est aussi l'endroit. L'accident nucléaire de Fukushima. Vous y étiez sur place, vous êtes parti de Chine pour aller à Fukushima. Vous avez eu peur et surtout, est-ce que vous avez encore peur ? Je vais vous dire le sens de ma question. Comme vous le dites, la radioactivité, pardon de vous dire ça, c'est un mal qui ne se voit pas et qui peut faire des ravages des mois, des années plus tard.
Alors c'était assez effrayant. C'était plus angoissant que vraiment une peur. C'était une angoisse. On se disait, mais qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Enfin, est-ce qu'il y a de la radioactivité ? C'est comme les virus, en fait, ouais. si vous voulez.
Vous étiez à quelle distance ?
J'étais à Tokyo et c'était à peu près à 250 km de, ouais. de Fukushima, à vol d'oiseau. Quoi.
Ouais. Et vous avez eu peur ?
Non. Peur, pas vraiment. Je vous dis, j'étais angoissé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le sentiment que ça a fait dans la population. La population était, évidemment, il y a 35 millions d'habitants à Tokyo. Il est impossible de les évacuer, naturellement. Et les journalistes qui sont venus de France ont voulu partir. Quoi. La plupart, on est restés quatre. Pour nous, France Télé, il y avait mon équipe, un jeune journaliste et moi. Voilà, tout le monde est parti, on n'avait même pas de caméraman.
Il y avait aussi un Suisse dont je me souviens qui faisait des trucs pour la TSR et pour Radio oui. France sous un faux nom. Exactement. Je me souviens très très bien. Christophe, non pas Christophe Charles, je me souviens plus comment il s'appelait. Il y a même des t-shirts à son effigie maintenant.
Ah bon, ça,
le gars de la TSR. Il faut raconter, ouais. vous étiez à l'époque en poste à Pékin, vous prenez le premier avion pour le Japon, vous pensez rester seulement quelques jours parce qu'on ne sait pas qu'à la catastrophe nucléaire, on pense que c'est d'abord un tsunami.
Voilà,
vous aviez un seul pull, un pull bleu, et ce pull. On l'a vu, parce que vous étiez direct sur direct, on l'a vu 10 jours de suite à l'antenne, au point que c'est remonté jusqu'au Premier ministre de l'époque, François Fillon, raconter l'histoire du pull bleu.
Alors oui, effectivement, François Fillon était invité du journal et il me voit en direct du Japon avec mon pull bleu, une gueule déterrée, parce que c'était quand même 4 heures du mat. Et il dit, oh là, le pauvre type que vous avez envoyé là-bas, puis en plus il est toujours habillé pareil avec ce pull bleu. Prise de conscience à la rédaction, mon Dieu. Ce pull bleu, il faut qu'on ne le voit plus, quoi. Ouais. Il faut qu'il change de pull. Alors, on discute beaucoup, puis on demande à un de mes copains, un de mes bons amis même, Gérard Grisbeck, de faire l'intermédiaire. Il m'appelle, mais tu sais, ton pull bleu, change-le quand même, il y en a marre de te voir toujours avec ce pull bleu. Et donc, j'obéis, j'achète un pull, et je change de pull. Et là, j'ai eu, mais vraiment, des centaines de messages sur Facebook. On veut le pull bleu, où est le pull bleu ? Donnez-nous le pull bleu. Il y a même quelqu'un qui va proposer de mettre le pull bleu en enchère
sur eBay
pour qu'on donne l'argent aux rescapés du tsunami, ou plutôt aux victimes du tsunami. Ouais.
Et ironie de l'histoire, c'est François Fillon qui s'est inquiété de votre tenue vestimentaire quand on connaît l'affaire des costumes.
Je viens d'y penser à l'instant,
ça me vient à l'instant. Un mot de sport, les services des sports de toutes les chaînes vous doivent beaucoup à Alain Chavron, parce que lorsque vous étiez directeur de la rédaction rédaction de France 2, parce que je ne l'ai pas dit ça, mais vous êtes aussi patron de la rédac, vous êtes intervenu auprès du président de l'Assemblée nationale de l'époque, Laurent Fabius, qui a permis de faire passer une loi. Racontez ce qu'il y a depuis votre passage.
Oui, alors quand on est patron, on est tenu de tenir le budget, évidemment. Ouais. Et il y a quelque chose qui nous coûtait très cher, c'était les images de sport, de TF1, en particulier le foot. Ça coûtait très cher.
À cause de l'exclusivité.
Oui, à cause de l'exclusivité. Et évidemment, France 2 encaissait aussi de l'argent, mais ce n'était pas nous à la rédaction, c'était la chaîne, c'était la société. Et donc je suis allé voir Laurent Fabius, qui était président de l'Assemblée à ce moment-là, et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait faire passer une loi qui nous autoriserait, comme droit de l'info, si vous voulez, utiliser une minute trente d'image de sport gratuitement. Et il a fait passer la loi, il a été très compréhensif et très réactif, c'est-à-dire qu'un mois plus tard, on avait la loi.
Et cette loi existe toujours. Comment s'est passé le retour en France après une vingtaine d'années à l'étranger? En fait, je sais que vous dites, nous écrivez vers la fin, 299, dur aussi fut le retour dans la rédaction de France 2. Oui. Elle m'avait donné beaucoup de bonheur, mais elle avait beaucoup changé et cédé à une dérive autoritaire. Autoritaire dans quel sens, Alain de Chalvron?
Autoritaire, c'est-à-dire qu'on vous imposait la vue de Paris sur une affaire. Quand on est à l'étranger, c'est quand même embêtant. Donc on vous disait, mais non, il faut dire ci, il faut dire ça. Et je n'étais pas du tout habitué à ça, parce que ça avait été une maison d'une grande liberté, qui faisait confiance aux gens, qui vous laissait vous laissait exprimer votre talent, quoi, votre façon de voir les choses. Et ça, c'était fini. Il fallait se mettre dans le carcan. Et j'ai eu du mal à me mettre dans le carcan.
Et c'est pour ça que vous êtes parti
En grande partie, oui.
Mais quand même, quand vous étiez le patron de la rédac, c'était dur. Hein. Vous dites le plus dur, ce n'était pas le journalisme, c'était de gérer les égos.
Oui, oui. Ça, dans les télévisions, c'est affreux. Il y a beaucoup d'égos. Ouais. Et il y a beaucoup d'égos qui sont en conflit les uns avec les autres.
Un mot sur la profession de journaliste qui devient de plus en plus décriée. On le voit malheureusement sondage après sondage. Et là, vous êtes très positif. Hein. Vous avez envie que les gens viennent. Vous dites, les gens n'ont plus confiance en nous et c'est parfaitement injuste et anormal. Pourquoi injuste ?
C'est injuste parce qu'on fait bien notre travail, si vous voulez. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre les journalistes professionnels dans des maisons comme la vôtre ou comme France 2 ou dans les grands quotidiens et ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément très professionnels. Mais nous, journalistes professionnels, bon, c'est vrai qu'on fait de temps en temps des erreurs, mais pas tant que ça, franchement. Et quand on les fait, c'est de bonne foi. C'est vrai que quand vous avez un flic qui vous dit Dupont de Ligonnès est arrivé en Écosse, si c'est un flic d'un certain niveau, vous pouvez lui faire confiance. Alors, il faut toujours avoir deux sources, etc. Mais...
Et en l'occurrence, je vais défendre les confrères, cinq flics différents, même s'ils avaient la même source, l'ont dit ça. Et alors justement, nous on rectifie, plutôt j'ai précisé, c'était, je le citais de mémoire, c'était Frédéric Charles, le journaliste suisse, et alias Georges Baumgartner.
Voilà, exactement.
Que vous connaissez exactement. Merci beaucoup Alain de Chalvron, je rappelle, ce livre en direct avec notre envoyé spécial, L'Archipel, et tout ce dont on n'a pas parlé, c'est également savoureux, je vous le conseille. Culture Média, merci d'avoir été avec nous.